enfant, je faisais croire que c'était mon ermitage, mais ça marche plus. Voilà. Alors, bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de croiser tout à l'heure. Un mot sur pour me présenter, puisque c'est mieux qu'on se connaisse un peu. Donc, je suis le père Bernard Clazen, je suis près du diocèse de Nanterre. Et sur cette petite photo, vous savez à peu près l'ensemble de mes activités. Je suis à Boulogne-Billancourt, vicaire sur une grosse paroisse, un de ces bateaux qu'on a dans le diocèse de Nanterre, l'Immaculée Conception, où j'ai pas mal de choses à faire, notamment en haut, à gauche, c'est une de mes spécificités, donc c'est assez amusant, c'est pour ça que je le signale. J'accompagne depuis 6-7 ans maintenant, à la demande de Monseigneur Aupetit jadis, des groupes de jeunes qui sont musiciens et qui font de la pop louange. Je suis un peu tombé des nues quand on m'a demandé ça, parce que c'est pas du tout ma spécialité, c'est un genre. Mais je m'y suis fait et j'aime bien. Donc j'ai accompagné Open et maintenant j'accompagne le groupe Praise. Et en fait, ils sont attachés à notre paroisse de l'Immaculée Conception parce que Boulogne-Billancourt, 120 000 habitants et quelques jeunes. Quoi. Vous imaginez, c'est quand même assez, c'est un bon terrain. Quoi. Sinon. J'ai réparti en quelques photos. Là. Le CIF, évidemment, m'occupe, mais ce n'est pas la principale source d'occupation chez moi. C'est l'enseignement à l'Institut catholique de Paris et au séminaire, où j'enseigne plutôt la philosophie. Parce que je suis gradé en philosophie, et non pas enfin, en théologie, mais faiblement. Alors que je relève de la faculté de philosophie à l'Institut catholique. J'ai un grand cours d'introduction à la philosophie sur des questions d'anthropologie, mais cette fois-ci philosophique. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la corporéité? Est-ce que l'homme est un animal pensant? Animal? Ah bon? En quoi? Etc. Vous voyez, ce genre de questions vachement intéressantes. L'âme, l'esprit, qu'est-ce que c'est? Voilà, toutes ces questions-là. Là-bas, j'ai pas mal de jeunes aussi. Et je suis très étonné qu'à mon âge, je passe pratiquement la quasi-totalité de mon temps avec des tout jeunes gens. Donc ça me fait plaisir de vous voir d'une certaine manière. Je reviens avec des gens à peu près de mon âge. Quoi. Parce que je m'occupe aussi des scouts à Boulogne, c'est des armées à Boulogne. Ils sont des groupes de 300, 400, 200, voilà, on est deux aumôniers à s'occuper de tout ça. C'est assez extraordinaire. Et vous verrez que mon cours est assez équipé pédagogiquement d'images. Je vais en dire un mot tout de suite. Et c'est parce que j'y suis sensibilisé depuis très longtemps, puisque j'enseigne à l'Institut catholique aussi, dans un tout petit satellite. Ça n'a rien à voir avec les gros bataillons de la licence humanité ou de la faculté des sciences de l'éducation. C'est l'ISTA, Institut supérieur de théologie des arts. Donc, ça, 15-20 étudiants ouais, par année. Hein. Ce sont des masters. Et j'y enseigne l'architecture. Donc, j'étais très sensibilisé très tôt aux questions d'esthétique. Voilà pour me présenter. J'ai mis un petit logo aussi, KTO, parce que je suis. Il y a pas mal de capsules, comme on dit, qui sont disponibles sur YouTube, KTO, etc. J'ai fait ça pendant 4 ans avec eux. Et je continue maintenant avec un petit studio que nous avons monté. J'aime beaucoup ce format, YouTube. Quoi. C'est une manière d'enseigner des choses. Et le challenge, en 3 minutes. Vous expliquer ce que ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Ah, ça, c'est génial, ça me plaît. Bon, là, évidemment, on se plante toujours. Hein. Quand on parle de Dieu, on se plante toujours. C'est-à-dire, on tape toujours à côté. Le langage technique pour dire ça, c'est apophatisme. Apophatisme, ça veut dire je dis juste à côté. On ne tape jamais dans le mille. Voilà, ça, je commence déjà maintenant ma petite conférence. Donc je voudrais vous tenter de vous dire ce qu'est l'intelligence de la foi à laquelle le CIF travaille et donc vous avec. Ou si vous voulez, comment s'articule, s'harmonise foi et raison. Mais tout de suite dire que l'intelligence de la foi, ce n'est pas une foi d'intello. Ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de l'abstraction. Mais la foi doit pouvoir animer et être animé, c'est réversible, par toutes les dimensions de notre existence. Existence sociale, fraternelle. Si la foi n'est pas éclairée par nos expériences fraternelles, elle n'est plus la foi catholique. Existence sensible et spirituelle. En effet, nos expériences sensibles, esthétiques par exemple, peuvent informer la foi, y compris dans son contenu. Existence intelligible. Toutes les questions qui se posent dans nos vies pratiques, nos vies concrètes. Tout ça doit pouvoir être éclairé par la foi et tout ça vient animer la foi. Et donc, le CIF ne fait pas abstraction de tous ces aspects de notre existence. Voilà, comme, j'espère, tout travail concernant la foi. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, vous voyez, à l'Institut catholique de Paris, où forcément c'est plus universitaire. Voilà une grande différence, vous voyez. Quand c'est plus universitaire, de temps en temps, il faut faire comme un examen froid des choses, se détacher des choses et les surplomber. Aussi, on préfère pas trop surplomber. Bon, voilà. Voici ce que je vais vous exposer rapidement. Je ne vais pas faire une conférence d'une heure. D'abord, deux images. Souvent, les images, vous l'avez compris, souvent, pour moi, les images parlent aussi bien que de beaux textes d'auteur. Ensuite, quel est le statut de l'interrogation? Pourquoi faut-il s'interroger? Ensuite, les différentes formes de l'intelligence. Et puis, le CIF, on vous a déjà parlé. Alors, allons-y. Ma première image, c'est la première page du site. Quand vous allez sur le site CIF, vous trouvez cette image-là. C'est le monastère de Grégoire l'Illuminateur à Artashat, et on voit au fond le mont Ararat. Vous saviez? Tout ça, c'est en Arménie. Nous pourrions croire que nous allons aborder un truc absolument immense et inatteignable. Penser, étudier la foi. Quatre points d'interrogation. Penser Dieu. Huit points d'exclamation. C'est possible? Nous avons raison de croire que c'est inatteignable parce qu'en effet, c'est hors d'atteinte. C'est hors de la compréhension. Mais nous pouvons y participer à l'intelligence de la foi. Y participer en deux sens. D'abord, en nous, il y a des connexions nécessaires. Il y a comme un naturel désir de connaître la foi. Le désir de l'absolu, nous ont déjà fait grandir et ont déjà ébauché en nous une sorte de réponse, d'écho, d'accord avec cette immensité. Premier point très important. On voit au vocabulaire philosophique, on appelle ça la fonction méta. C'est-à-dire il y a en nous un désir de méta. Physique. Ensuite, les pensées qui montent vers le sommet participent au sommet. Participer dans ce sens-là. D'abord, premièrement, en nous, il y a le désir. Et ce désir, c'est déjà un mode de connaissance. Deuxièmement, si vous êtes sur la pente, pas au sommet, mais sur la pente, vous participez déjà à la vérité de la montagne. Sans les pentes que nous allons parcourir, pas de sommet. Vous savez bien que dans une randonnée, la patience, l'anticipation, la régularité du pas, la compagnie des autres, l'alimentation nécessaire, les repères posés par d'autres, les balises, sont nécessaires. Et bien dans les études, c'est pareil. Donc des balises, l'aide des autres, régularité, anticipation, patience. La seconde image, l'arc-boutant. Vous voyez ici, à Strasbourg, c'est cette poutre oblique qui vient consolider le mur en haut, en son endroit le plus faible, parce qu'il subit à cet endroit des obliques, les poussées de la voûte. Et donc, il faut poser un doigt, une consolidation à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'art ogival, appelé au XVIIIe siècle l'art gothique. Ça veut dire barbare, hein, l'art des barbares qui ne savaient pas construire. XVIIIe siècle, quelle prétention. Qu'est-ce que ça veut dire, l'art ogival? Ça veut dire qu'on a voulu monter vers Dieu. C'est vraiment ça le but. Hein. C'est pour ça que c'est plus haut que l'art roman. On veut monter vers Dieu et on voulait chercher la lumière en haut. Donc vous me voyez venir. Hein. C'est ma seconde image. On veut la clarté. On veut la lumière. On veut la compréhension. Il faut que ce soit lumineux. Il faut même recevoir l'illumination. Et en fait, rien de cette efficacité, rien de cette fine structure sophistiquée, rien de ce fin réseau architectural ne tiendrait sans la masse des appuis. C'est une image que j'utilise là, que je vais poursuivre. C'est une image des rapports réciproques entre la foi et la raison. La foi est une lumière sur la route, mais elle doit être étayée par la raison, par le questionnement. En gros, pour que la foi de l'Église soit habitable, il faut qu'elle puisse être pensée. Pour que la foi de l'Église soit habitable, il faut qu'elle puisse être pensée. Il le faut. De même qu'elle doit être reçue sensiblement. On pourrait presque dire affectivement. C'est parfois un peu complexe. Mais l'enseignement que nous allons vous prodiguer, les choses que nous allons travailler ensemble, consistent précisément à rendre accessible cette complexité. C'est complexe, après tout, comme l'est le réel. Donc n'ayons pas trop peur du complexe. C'est complexe comme le sont nos existences. La foi a besoin de la raison comme la raison a besoin de la foi. Nous ne croyons pas uniquement ce que nous comprenons, tout comme nous n'aimons pas chez autrui uniquement ce que nous comprenons de lui, n'est-ce pas? Et donc nous ne limitons pas notre foi à ce que nous croyons, à ce que nous comprenons. La saisie rationnelle de la foi n'est pas le tout de notre foi. On reviendra là-dessus. Hein. Mais vous comprenez à peu près, évidemment. Puisque nous faisons des expériences qui ne sont pas contenables dans la raison. Par exemple, l'expérience d'une prière communautaire, de louange, où vous vous laissez bien emporter, facilement emporter par la liesse. Est-ce bien raisonnable? Avons-nous raison de le faire? Vous voyez, je pose deux questions qui n'ont rien à voir. Oui, nous avons raison de le faire. Est-ce bien raisonnable? Pas trop. Voilà pour mes deux images. Bon, on a deux ans, hein, donc c'est juste une introduction que je vous fais. Maintenant, je voudrais voir avec vous le statut de l'interrogation. Vous vous posez des questions, vous avez parfois des doutes, vous avez envie de comprendre, eh bien le CIF est fait pour vous. C'est exactement ça, notre projet. Vous en avez assez qu'on vous empêche de réfléchir parce que, soi-disant, c'est un mystère. Ben, vous avez raison. Le mystère n'est pas un empêchement, il est un appel. Il appelle tout en vous. Votre participation active, votre intelligence, vos émotions, vos amitiés, vos expériences mystiques, vos expériences de la banalité, quotidienne ou exceptionnelle, tout est habité de mystère. Ou si vous voulez, de présence. Ou si vous voulez, de sens. Le mystère, appelons-le la présence de Dieu, est en nos vies. Il n'exige pas le mutisme pieux, mais au contraire, il veut faire venir à la parole, il veut s'exprimer dans un discours, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous tentons de vivre ici avec vous. Vous vous interrogez, vous avez des doutes, c'est plutôt bien. Encore, sur le mot doute, faut-il distinguer ? Il y a trois sortes de doutes. Il y a le doute sceptique, boudeur, banlieue ouest de Paris. Celui qui fait le malin dans les salons. Mais j'y habite, Boulogne-Billancourt. C'est pour ça que je connais bien. C'est celui, vous savez, qui fait le malin, qui boude de tout, qui a un avis sur tout, qui aime bien griffer volontiers un peu toutes les pensées. Il n'y connaît pas plus que vous, hein, mais il a l'art de faire le malin. Il est souvent armé, équipé de questions prétextes. C'est-à-dire, face à quelque chose que vous dites, il va vous dire « oui, mais ». Et il va vous poser une question qui l'empêche, lui, d'aller avec vous. Ça, je vous le déconseille carrément, cette première forme de doute. Il y a ensuite un doute méthodique. Alors nous, les Français, on aime beaucoup ça, on appelle ça, les Français sont cartésiens, dit-on, parce que ça vient en effet de René Descartes, 17e siècle. C'est une méthode pour comprendre. C'est-à-dire, on questionne tout. Vous dites, par exemple, il a donné sa vie pour nous. Expliquez-moi ce que ça veut dire, donner sa vie. Il a versé son sang pour nous. Expliquez-moi ça. Hein. Voilà, c'est quelque chose, une attitude qui consiste à tout questionner, à tout interroger. Mais ça veut dire aussi qu'on cherche à comprendre. Vous voyez, ce n'est pas le premier cas qui cherche, en posant des questions, à se dispenser d'avancer avec vous. Là, ça n'a rien à voir. Nous cherchons à comprendre. Nous cherchons à comprendre. Et donc, c'est plutôt bien, ça. Il y a évidemment une troisième sorte de doute. Alors ça, on ne peut évidemment absolument pas le recommander, mais ça peut arriver. Peut-être que ça vous a traversé. C'est le doute abyssal. Moi, ça s'appelle ça le vertige. Évidemment, je ne vous le souhaite absolument pas, mais ça arrive. Et après, il faut se reconstruire quand on éprouve ce genre de doute. C'est évidemment terrible, c'est une espèce de remise en cause radicale et qui n'aboutit qu'à perdre pied. Très rapidement, il faut se refaire. On ne peut pas stationner là-dedans. Ça n'est pas tonique, mais ça peut arriver. Et on peut se refaire notamment en reconstruisant avec le deuxième doute, le doute méthodique, tout ce qui a été ravagé. Chercher, s'interroger, c'est donc plutôt bien. C'est ne pas s'interroger qui pose un vrai problème. Je vais vous raconter une petite histoire. Je visitais beaucoup la Turquie, à un point tel que je travaille maintenant, non pas avec une agence française, mais avec une agence turque. J'emmène des groupes, et souvent des groupes de jeunes. On visite la Cappadoce, et on visite Istanbul, et on y fait de la théologie. De la théologie en images et en randonnée. Et très souvent, l'agence avec laquelle je travaille, qui est affiliée à une école de guides, m'envoie des jeunes stagiaires. Donc, ils sont turcs. Ils parlent français. Et ils accompagnent le groupe. Or, vous savez comment sont les jeunes français, les jeunes étudiants. Le soir, à table, on ne fait rien le soir, on ne fait pas de visite. Ça fourmille de questions. Donc généralement, vous voyez, on organise les tables et puis on mange ensemble. Et puis alors après, une heure et demie, deux heures de questions, c'est moi qui suis obligé d'arrêter pour aller dormir parce que demain, on est une journée avec de la randonnée, avec des visites et tout. Et je vois mes deux ou trois jeunes turcs, au bout d'un moment, qui chuchotent à leur voisin. Et le voisin me pose une question. Ils chuchotent à leur voisin français. Et le français me pose une question. En disant, j'ai une question, et en fait, c'est la question du Turc. C'est très étrange. Hein. Pourquoi ? Parce que dans l'islam, vous n'avez pas le droit d'interroger. C'est un blasphème. Or, les jeunes, comme dans le monde entier, s'interrogent. Et donc, ils posaient des questions à leurs voisins français, qui, eux, pouvaient commettre un blasphème. Ils sont chrétiens. Et bien, nous, vous voyez, on pense le contraire, strictement. Strictement le contraire. La bêtise n'est pas chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un intello. Mais ça veut dire que le statut de la question, chez nous, est notre gloire. Où demeures-tu ? C'est la première question qui arrive dans l'évangile de Jean. C'est une question. Mais d'où es-tu donc ? C'est une question, celle de Pilate. Donc vous voyez que vous soyez un bon catho, que vous soyez bon catho, que vous soyez mécréant, le statut de la question chez nous, c'est hyper important. C'est un honneur de se poser une question, c'était la grandeur de notre humanité. Et donc, le CIF, c'est le centre pour l'intelligence de la foi. Souvent, de temps en temps, je fais des émissions sur RCF ou sur Radio Notre-Dame, et alors la brave journaliste qui m'interroge dit toujours « le centre de l'intelligence de la foi ». Alors je la reprends à chaque fois en lui disant « écoutez, j'espère que le centre de l'intelligence de la foi, c'est l'Esprit-Saint ». Moi, je ne travaille que pour. Enfin, j'essaye de parler pour. Voilà, donc, les études n'empêchent pas les questions, tout au contraire. Parfois même, aurez-vous peut-être le sentiment d'être ébranlé dans votre foi. Moi, je ne pense pas que ce soit la foi qui est ébranlée, mais les certitudes, mais les idées reçues. En fait, c'est un progrès. Rassurez-vous, ici, ce qui ébranle libère. Nous ne voulons rien démolir, nous ne voulons rien ébranler, nous voulons libérer, comme les Dalton, mais nous le ferons avec plus de méthode que les Dalton. Donc nous creuserons des questions, en effet. Et pour nous évader, en effet, pour nous évader des mauvaises constructions, pour nous évader des solutions toutes faites, des réponses saturantes. Il faut se déplacer, mais pour ouvrir, pour libérer, pour aller plus haut, pour aller plus loin. Le but de ce travail est bel et bien de bâtir, d'étayer, de consolider, afin de mieux habiter la foi, afin de mieux la rendre accueillante aux autres. Un petit mot maintenant sur les différentes formes, des différentes dimensions de l'intelligence. Et puis je m'arrêterai là. Dans le domaine de l'intelligence, de la pensée, on peut distinguer trois modes différents et complémentaires. La raison, le cœur et l'esprit. Comme on le voit sur ce schéma, les trois ne peuvent se recouvrir entièrement. Mais ils s'informent largement, ils se compénètrent largement les uns des autres. Il n'y en a pas un qui soit nocif pour les autres. On ne peut pas réduire ce qui relève de l'émotion à un concept abstrait. Laissons l'émotion être l'émotion, et riche d'enseignements. Et pourtant, une part de ce qui nous émeut gagne beaucoup à être éclairée par l'explication, par l'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des zones qui se compénètrent. Et cet éclairage par la raison, en fait, va même enrichir, au bout du compte, le sensible. Donc, vous voyez, il y a des réciprocités qu'il faut établir. Qu'est-ce que... Je mets raison, cœur, esprit. Ça me vient de Jean Kedevitch. Qu'est-ce que c'est que l'esprit ? C'est l'âme de nos vies, c'est le souffle. Roi, si vous voulez, en hébreu. C'est l'homme intérieur. Qu'est-ce que c'est que la raison ? Ben, c'est ce qui se démontre. La raison, c'est presque mécanique, c'est une méthode. René Descartes a raison. Qu'est-ce que le cœur ? Ben, oui, il faut l'entendre comme on l'entend d'une manière banale. Ce sont les émotions, c'est la sensibilité, le cœur. Ça, c'est rationnel. Ce n'est pas raisonnable. Vous voyez ? J'ai déjà fait cette petite nuance. Il y a un excès de calcul. Il y a un excès de l'intelligence mécaniste et une absence complètement de cœur et d'esprit. Il n'y a pas d'âme dans cette zone d'habitat. Il n'y a pas de cœur non plus. Ce n'est pas très beau. Ça, c'est un excès d'émotion. Quand la vindicte populaire veut lyncher quelqu'un. Excès d'émotion, manque de raison. Et donc, vous voyez, au total, il faut s'en tenir à ce schéma, c'est-à-dire que notre existence est beaucoup plus large que la seule raison, bien entendu. Et la raison tire beaucoup, apprend beaucoup de notre existence. Et la raison peut éclairer, enrichir notre existence, même les choses les plus banales. Ce qui ne relève pas de la raison, de l'intelligence rationnelle, le beau, l'amour, le sensible, le monde, peut et doit être pensé, c'est-à-dire associé à la raison. D'où cet adage de Claude Bruyère. Et je fais le philosophe aujourd'hui. Vous avez de la chance parce qu'après je ferai le théologien. Cet adage de Claude Bruyère, pour moi essentiel, il en faut en faire un credo. Ce n'est pas exercer toute la raison de ne s'en tenir qu'à la raison. C'est ça, en fait, ce que nous faisons au CIF. Ce n'est pas exercer toute la raison que de ne s'en tenir qu'à la raison. S'en tenir qu'à la raison, ça n'est pas raisonnable. Car il y a tout un domaine de nos existences qui échappe à la saisie de la raison et qui, cependant, peuvent être pensées. Il est raisonnable d'aimer. Voilà. Ce serait déraisonnable de se passer de la beauté. Donc vous avez à peu près compris. Quelques images pour illustrer ça. Un artisan. Cet homme, figurez-vous, a une très belle intelligence du sensible. Voire même une intelligence de la main. Voire même du ductile. Très belle intelligence. Une autre image. Bartabas. Il y a une extraordinaire intelligence dans ce geste. Il est beau. Il y a même, on peut dire, une espèce d'intelligence commune entre l'animal et l'homme. Ah, évidemment, vous allez me dire, ça ne relève pas de la raison. Mais c'est très intelligent. Encore une image. Les ressentis nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes, sur le monde. Ce que nous ressentons éveille en nous l'esprit. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué ce que je raconte. Quatrième image, un sans-domicile, un réfugié. La pitié est une forme d'intelligence, d'ouverture à autrui. Vous comprenez mieux par la pitié que par n'importe quelle démonstration. Vous voyez, c'est-à-dire l'autre, tout d'un coup, prend autorité sur vous. L'autre a raison contre votre raisonnement. Cinquième et dernière image, l'amour humain, bien sûr. Rien de rationnel. Mais ce serait déraisonnable de ne pas s'appliquer quelques méthodes pour consolider cet infini qui nous est confié. Et donc, vous voyez, au total, dans l'expérience chrétienne, les choses sont ainsi associées les unes les autres. C'est ce que nous voulons aussi ne jamais quitter. Foi, émotion, fraternité, intelligence, joie, parole, confiance. Voilà ce que je pouvais dire des rapports de... ce que nous allons faire avec la foi, le centre pour l'intelligence de la foi. Vous voyez que ça n'a rien d'effrayant, tout au contraire, j'espère bien vous avoir mis en appétit.